l'affiche rouge. Vous n'aviez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans. Vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles et faisaient un effet de peur sur le passant. Nul ne semblait vous voir, français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient inscrit sous vos photos « Mort pour la France », et les morts le matin en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre, à la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit « Calmement, je meurs ». Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les larmes. Adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent. Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses, quand tout sera fini pour nous, on est rêvant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sous nos pas triomphants, ma Mélinée, mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant.
Bonjour, nouvelle émission Louis Aragon de Vendémiaire ce 2 juin 2016. 38e émission Aragon, avec bien sûr Jean Knouf et Maria Berlioz avec nous dans les studios, pour évoquer eh bien la deuxième émission consacrée aux biographies d'Aragon, en particulier les dernières biographies, celle de Juquin et de, comment s'appelle l'autre, j'ai oublié,
Émile Forest,
voilà. Je vais vous donner la parole, puisque vous avez consciencieusement et laborieusement et avec plaisir préparé cette émission.
Oui, beaucoup de plaisir.
Tout à fait. Bonjour à tous.
Bonjour à tous. Donc, on a parlé la dernière fois de la toute première biographie, dont le grand mérite d'ailleurs est d'avoir été la première, hein, qui était parue en 1974. Et qui avait été jugé assez sévèrement par Aragon, bon, qui supportait pas bien d'ailleurs qu'on parle finalement à sa place de son domaine privé. Donc en 2012, donc ça fait quand même un sérieux écart de temps. En 2012 est paru faut l'appeler un monument, hein, ce monument Juquin. Qui est paru en 2 volumes. On ne peut que recommander d'ailleurs la lecture de ces 2 volumes. Enfin, faut du temps, hein, bien sûr. qui sont parus aux éditions de La Martinière. Hein, ça fait quasiment, ça fait presque, pas tout à fait 2000 pages, 1600 pages, je crois, les deux. Et donc, il a divisé sa biographie en deux parties. La première, donc, c'est de la naissance, c'est-à-dire 1897 à 1939, hein, le moment où Aragon est mobilisé donc pour la Deuxième Guerre mondiale. Et puis la deuxième partie va donc de 1939 à 1982, date de la mort de Louis Aragon. Alors, on avait dit la dernière fois qui était Pierre Jucquin, hein, bon, je le rappelle brièvement. Donc il est né en 1930, hein, il est toujours vivant et bien vivant, et pourvu que ça dure longtemps, il intervient toujours dans de nombreuses conférences. Il réside à Chamalières dans le Puy-de-Dôme, et donc il a été un membre éminent du Parti communiste, hein, il a été porte-parole du Parti communiste. Il n'a jamais été ministre, mais il a été élu député dans la région parisienne. Et puis surtout sur le plan politique, il a été élu d'abord au comité central et puis ensuite au bureau politique du Parti communiste, et on peut dire qu'il a joué un rôle important dans la politique française. Et surtout je crois que ce qui est tout de même important quand on le met en perspective des évolutions d'aujourd'hui, je pense par exemple à ce qui se passe dans le front de gauche, il a été exclu du Parti communiste parce que au moment des élections en 1988, il s'est désolidarisé de son parti pour se présenter dans une alliance avec avec ce que vont devenir les Verts et puis la Ligue communiste révolutionnaire aussi, qui s'appelait donc, qui est l'actuel NPA. Bon, il a été exclu assez violemment du Parti communiste. Mais ce qu'il y a d'assez singulier chez Pierre Jucquin, c'est que contrairement à beaucoup d'exclus du Parti communiste, il n'a pas ce côté revanchard, procès, etc. Il reste dans l'idée communiste. Hein. Voilà. Évidemment, il a connu, alors c'est sans doute aussi, on verra quand on parlera de la biographie de Philippe Forest qui est la plus récente, la limite, il y a une limite, mais enfin bon, c'est comme ça, hein, c'est qu'il a bien connu, Aragon. Alors aujourd'hui, on va traiter du premier volume, qui correspond à la période où Jucquin ne connaissait pas Aragon. On verra que dans le deuxième volume, alors c'est intéressant aussi, mais c'est sans doute une autre approche. Il y a davantage d'anecdotes, de choses bon, qu'ils ont vécues ensemble. Quelle est la thèse de Pierre Jucquin? Alors elle est assez claire. Il l'a exprimée dans diverses interviews. Il l'énonce très clairement. L'homme et l'écrivain s'est construit dans le communisme. Il y a chez Pierre Jucquin cette idée que Aragon se construit à partir et à travers son engagement communiste. J'ai également trouvé une autre déclaration qui est encore beaucoup plus forte, qui est peut-être un peu d'ailleurs, on en parlait avec Maria, on la trouve un peu excessive. Dans un article pour un hors-série de l'Humanité Dimanche, qui date de décembre 2012, qui correspond d'ailleurs à la sortie du premier volume, il affirme la politique comme la passion du Christ. Alors peut-être passion au deux sens du terme, c'est-à-dire la passion au sens actif, hein, c'est-à-dire que Aragon a été dévoré par cette passion de la politique. Mais en même temps, passion, hein, passior, c'est la souffrance. Hein, la passion du Christ, c'est son agonie sur la croix. Alors, ce qu'on va essayer de faire, parce que c'est immense, hein, on pourrait y passer 10 heures rien que sur le premier volume, on va essayer de dégager deux thèses qui nous semblent intéressantes par rapport à ce que dit Dex, à ce que disent aussi, parce que bon, quand je dis il n'y a eu qu'une biographie, il y a eu quand même pas mal de choses écrites sur Aragon, sur tel ou tel aspect partiel. Hein. Là, il s'agit, quand on parle de biographie, il s'agit d'envisager l'écrivain, l'homme, ses engagements dans sa totalité. La première chose qui nous a semblé intéressante et frappante, c'est ce qu'on a appelé la réévaluation du roman familial. Il y a une thèse que qu'Aragon a alimentée lui-même, c'est qu'il n'a pas aimé son père. Hein, je rappelle que donc Aragon est le fils d'un préfet de police, Louis Andrieux, ami de Georges Clemenceau, et que il n'a pas été reconnu. Enfin, sa naissance a été d'ailleurs, je ne sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait pas possible. Son père l'a dit. Il n'y a pas d'acte de naissance. Il y a simplement un acte de baptême. Il lui a donné donc ses initiales, hein, Louis. Et Aragon, tout simplement, parce qu'il avait été ambassadeur de France en Espagne et qu'il était tombé amoureuse d'une fille originaire de Saragosse. Et comme Saragosse est la capitale de la province d'Aragon, voilà, enfin, c'est vraiment quelque chose de très romanesque. Alors, et sa mère, bien entendu, alors ce qui, d'un point de vue psychanalytique, est quand même très intéressant, sa mère et sa sœur. Hein, on fait passer sa mère pour sa sœur aînée. Et lui, il serait le fils adoptif de sa grand-mère, né à Madrid. Enfin bon, c'est une histoire, c'est quand même une histoire incroyable. Et son père, donc Louis Andrieux, est le parrain. Alors, cette thèse, elle est, on la trouve partout. Hein. D'ailleurs, c'est Aragon lui-même qui l'a alimenté. Hein. Ça fait partie un peu de son territoire romanesque, quoi, cette thèse. Hein. Il s'est construit aussi à travers ça. Alors, Pierre Jucquin a trouvé un texte de très très précoce, hein, où il nous raconte les promenades.
Oui, la présence du père.
La présence, oui, en fait, la présence
parce qu'il
très
allait le voir,
du père,
oui, oui.
Pendant les week-ends. Hein.
Tout à fait, tout à fait. Alors, Aragon écrivait très tôt. « Nous n'irons pas au bois cette fois-ci », disait-elle. Et elle parlait du Louvre. Et moi, ça me plaisait parce que cette fois, elle avait dit « Nous allons au musée du Louvre ». Et moi, j'avais demandé si ce n'était pas fermé le dimanche matin. Paraît que non. Faut dire, je croyais au Louvre et que nous allions, que c'était le grand magasin et qui est plein de jouets et toutes sortes de choses. On y vendait même des soldats de plomb. Ça, j'aimais les soldats de plomb. Et justement, les frères Prévert, le jeudi, étaient venus jouer à la maison et que c'était, comme d'habitude,
oui,
un massacre.
Il faut peut-être préciser qu'ils étaient voisins des frères Prévert, de la famille Prévert.
Prévert. Ouais. Pas l'aîné, celui qui était de mon âge. Il était tout blond, bien différent des autres. Et ce n'est que beaucoup plus tard qu'il a commencé à dire que cette guerre, ça pouvait nous être fatal, aux uns comme aux autres. Personne n'était venu occuper notre appartement ou celui d'à côté. Pourquoi parler de guerre? D'ailleurs, il n'y a pas eu la guerre. Enfin, pas cette fois-là. Nous allions au Louvre. Si c'était pour m'acheter un col comme celui qu'on m'avait volé un soir après des tours sans fin sur les chevaux de bois, un col en dentelle, un peu beige comme ça, je n'étais pas très adroit pour décrocher les anneaux sur ma baguette. Parrain parlait du temps où il était ambassadeur à Madrid, qu'on ne voulait pas le laisser traverser seul comme ça les forêts, il y a des bandits parfois. Il préparait déjà son speech, comme il disait. Enfin, ce n'était pas lui qui laisserait à des gens dangereux. Quoi ? Leur laisserait ? Enfin, leur laisserait pas ? Moi, je pensais surtout aux soldats de plomb, les chevaux, tout ça. Les chevaux de plomb, hein ? Ceux qui étaient cassés étaient bien cassés. Et ce n'étaient pas des bandits qui... Et puis, quels bandits ? Et qui et quoi, tu crois ? Je voyais bien qu'avec Parrain, on ne tirerait pas sur les passants. Ça, c'était déjà clair. Mais enfin, je n'allais pas comme ça laisser mes petits chevaux à n'importe qui. Toujours est-il, et pour en faire un massacre. Enfin, on n'entrait pas au magasin du Louvre. Voilà ce que j'y voyais de plus clair. Dimanche ou pas. La voiture s'était engagée sous les voûtes du musée. On n'y vendait rien, excepté des plans de Paris. Mais ce n'était pas ça, le point. Je n'avais jamais vu la victoire de Samothrace. Là-haut, tout droit, sans bras, sans tête. Des ailes, il me semble. Et puis, on ne me racontait rien. Sur qui c'était victoire, et si c'était un nom, enfin un grade, et ce que c'était plutôt louche. Il y avait une lumière, comme avant, qu'il se mette à pleuvoir. Mais ce n'était pas ça le principal. Le principal, c'était les statues des bonshommes solides. Mais quoi? Ils allaient tous au bain? La victoire, elle, avait une jupe au moins. Il y avait bien plus d'hommes que de femmes nues, absolument nues. J'avais envie de poser des questions sur les particularités des corps des géants. Ils avaient tout gigantesque. Ça ne doit pas être commode dans le pantalon. Mais d'ailleurs, ils n'en avaient pas des pantalons. Elle me dit, Marguerite, tu ne pourrais pas parler d'autre chose ? Et en effet, je ne pouvais pas. Tout ça était énorme. On comprenait qu'ils ne le gardaient pas, leurs pantalons. Une chose bizarre, en tout cas. Parrain, tout le temps parlait peinture. Et avec ça, on ne voyait pas la queue d'une. J'ai demandé, ils ne peignaient pas alors, les Grecs ? Si, si, sur les peaux. On verra ça un autre jour, mon petit. Moi, je ne détestais pas ça. D'abord, à cause de Marguerite, qui en avait fait pour le bon marché. Comme ça, des assiettes, des pots. Et chez nous, on avait maintenant des œuvres de Marguerite. Il y avait devant des visiteurs qui tournaient leur nez. Ce n'était pas assez moderne. Moi, je me demandais ce que voulait dire le mot moderne. Pour une peinture, être moderne. Pour la vaisselle ou le paysage. Au fond, je ne connaissais guère que les œuvres de Marguerite. On en disait que c'était du figuratif, et moi, je comprenais pas trop ce qu'on désignait ainsi. Je lui demandais, « Et de la peinture, comme tu en fais, il y en a au musée, non ?»
Voilà, donc ce récit, c'est un récit de la prime jeunesse, hein, que... Je crois d'ailleurs qu'il est inédit et on ne le trouve pas ailleurs que dans la biographie de Pierre Juc. Mais cette affirmation de la présence du père, elle est reprise par Aragon lui-même dans un extrait du Mentir vrai, un extrait qui est assez fort s'agissant d'une visite donc du parrain. Hein, et d'une certaine photo qui est sur le mur dans la chambre du petit Louis.
Alors Louis dit, quand j'étais petit, je ne savais pas, puis un jour que j'étais malade, mon tuteur, il est venu dans ma chambre. Et à droite de la cheminée, au mur, sous le Jésus de Prague, il a aperçu la photo du monsieur qui était mon père pour tout le monde. C'est-à-dire le grand-père maternel, Ferdinand Toucas. Mon tuteur, il a demandé « qu'est-ce que c'est que ça ?» Et j'ai dit « c'est papa ?» Et lui, il s'est mis dans une colère, mais une colère. La photo a passé dans sa poche. Et devant ses protestations, il m'a promis de m'apporter son portrait à lui, pour remplacer le petit cadre ovale. Après quoi, Marthe... En fait, Marguerite m'a expliqué. Et on a mis au mur, au-dessus du Jésus de Prague, cette fois-ci, une grande image, un peu passée, jaunie, de mon vrai père. Comme s'il y avait toujours été, plus jeune que je ne l'avais connu, la moustache batailleuse.
Voilà, donc là, c'est donc un extrait du Mentir vrai. Hein. Je rappelle... que Le Mentir Vrai, c'est un recueil de nouvelles qui est paru après la mort d'Aragon et qui comporte beaucoup de... Donc, ce sont de courtes nouvelles qui font quand même souvent référence à... Bon, c'est pas autobiographique, mais il y a tout de même pas mal de références à la vie d'Aragon. Alors, ce personnage du père, on va le retrouver dans plusieurs romans. Bon, Pierre Jukin, donc dans ce chapitre qu'il consacre au roman familial, hein, ce qu'on appelle le roman familial, en fait l'analyse. Donc nous, là, on va pas la faire, ce serait beaucoup trop long. Enfin, on peut quand même citer, si vous lisez Les Voyageurs de l'Impérial, hein, qui, enfin, à mes yeux, c'est un grand roman d'Aragon qui se lit très très bien, qui est l'histoire du grand-père, mais qui est aussi, hein, puisque on est dans la fiction, donc les choses se mélangent. Toute la première partie, Les vacances dans l'Ain, ça renvoie très directement au pays de Louis Andrieux, puisque Louis Andrieux était originaire du département de l'Ain. Si on va davantage vers l'aspect politique, un autre roman du monde réel, c'est le deuxième titre, ce sont Les Beaux Quartiers. Un roman qui mérite mieux, je trouve, que l'oubli partiel dans lequel il est, parce qu'il se lit également très bien. On retrouve ce personnage de Louis Andrieux à travers un politicien qui, dans le roman, s'appelle Philippe Barbantane, qui a le goût d'écrire ses mémoires, hein, ce que Louis Andrieux a fait beaucoup. Le voltairianisme, hein, puisque, comme beaucoup de radicaux... qui avait cet agnosticisme, hein, puis aussi cette conception du dieu architecte, hein, bon, c'est pas le dieu chrétien, mais comment concevoir cet univers s'il n'y a pas un architecte quand même qui l'a conçu au départ, hein, bon. Également, Louis Andrieux, on sait qu'il était très, qu'il adorait les blasphèmes, en particulier sur l'Immaculée Conception, hein, puisque c'était tout de même c'était un grand séducteur, donc il avait un peu de mal à concevoir cette doctrine de l'Immaculée Conception.
Et puis il donnait dedans lui-même.
Alors. Oui, oui. Et puis ça n'avait pas marché avec Marguerite Toucas. Et les enterrements religieux, etc. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on retrouve. Et puis, comme toujours dans les romans d'Aragon, bon, Philippe Barbantane n'est pas uniquement on retrouve le personnage de Louis Andrieux à travers d'autres personnages du roman. Voilà. Alors, un témoignage de Jean Rista, donc qui a vécu les dernières années avec Aragon, il affirme. Dans ses entretiens avec Francis Crémieux, qui sont très intéressants de ce point de vue-là, il affirme qu'Aragon a conservé trois reliques paternelles. C'est curieux d'ailleurs. Le cachet de Louis Andrieux, ses médailles et son livre maçonnique, puisque Louis Andrieux donc était franc-maçon. Jukin aimait également l'idée suivante, c'est que dans les beaux quartiers, qui est son roman le plus directement politique, hein, puisqu'en fait il y a dans Les Beaux Quartiers, les deux personnages principaux sont les deux frères Barbantane, l'un qui va virer à droite et l'autre à gauche, qu'on va retrouver d'ailleurs dans le roman fleuve Les Communistes. Pour Jukin, donc je reprends ma citation, Les Beaux Quartiers, c'est l'univers transposé de Louis Andrieux et des siens qui tient le haut du pavé. Voilà, pour lui, c'est pas un roman autobiographique, mais c'est un roman qui est complètement imprégné de cette présence de Louis Andrieux. Alors, il y a eu quand même un éloignement réel des deux hommes, et il a eu lieu, mais ça peut se passer dans bien des familles, il a eu lieu lorsque Louis Aragon a abandonné ses études de médecine pour rejoindre le mouvement Dada. Faut quand même dire que le mouvement Dada, quand on lit les productions de Dada, Bon, c'est quand même quelque chose d'un peu surprenant pour nous encore aujourd'hui, quoi. Bon, c'est vrai que ce sont des, hein, il y a systématiquement un sens de la provocation. Mais ensuite, et là, Marguerite Toucas, la mère d'Aragon, a joué un grand rôle. Les deux hommes se sont rapprochés. Et Pierre Juquin, qui a inspecté minutieusement la bibliothèque au Moulin de Saint-Arnoult en Yvelines, a trouvé une dédicace adressée à Elsa, à Madame Elsa Triolet, sympathique hommage. Donc, Louis Andrieux a connu Elsa Triolet. Alors d'ailleurs, Louis Andrieux est décédé le 27 août 1931. Hein, donc, il a pu connaître donc Elsa Triolet pendant 3 ans.
300.
Ce qui prouve quand même que les ponts n'étaient pas rompus entre Aragon et son père. Et c'est l'époque donc où Aragon entreprend l'écriture des cloches de Bâle et qui commence donc par cette phrase fameuse, hein, qui est citée, qu'il cite abondamment comme étant une des clés de son art d'écrire. Quand il dit j'écris une première phrase et à partir de là tout le roman se déroule, et cette première phrase des cloches de Bâle, cela ne fit rire personne lorsque Guy appela monsieur Romanet papa. Voilà, donc, et à partir de là, ça fait penser aux exercices qu'on fait faire aux élèves maintenant. Écrivez une suite, donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la table va se renverser? Enfin bon, voilà. Et en même temps, cette phrase qui est déclencheuse, elle est une revanche à cette situation. C'est presque d'ailleurs, c'est presque du fédot, quoi, de ce point de vue-là, hein, qui va entraîner justement le roman familial bourgeois, quoi. En fait. Ouais. Alors, une chose qui nous a beaucoup frappé avec Maria, parce que quand même, c'est Juquin qui l'avance, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, Juquin établit un lien entre la reliure de l'œuvre poétique complète, donc qui est parue au Livre Club Diderot dans les années 70, qui est reliée une toile terminée soit en gris, une toile reliée en soie gris perle, et le père d'Aragon, Louis Andrieux, était surnommé l'homme aux gants gris perle. Et c'est vrai que c'est quand même assez troublant. Et à la fin, j'ai regardé sur mon édition, à la dernière page, l'éditeur spécifie que la reliure gris-perle a été exigée par Aragon. Donc là, il y a tout de même une filiation qui est voilà. Et puis il y a une chose également qui est assez forte, c'est que bon, bien sûr qu'un des thèmes récurrents chez Aragon, c'est la thématique de la femme, hein, l'avenir de l'homme, etc. Il faut quand même signaler que Louis Andrieux, avec tous ses défauts de la Troisième République, radicalisme, etc., magouille politique, il a tout de même déclaré dans son dernier discours à l'Assemblée nationale, « Le jour où les femmes seront parmi nous, les hommes seront meilleurs. Les lois que vous ferez seront plus humaines. » Et ça, quand même, je pense que le message, cette thématique autour des femmes affirmée dans Aurélien, puis reprise et orchestrée si superbement dans Le Fou d'Elsa, est tout de même initiée par Louis Andrieux. C'est un héritage de Louis Andrieux. Voilà ce qu'on avait à dire s'agissant du roman familial d'Aragon. Ensuite, on passera à un point un peu plus théorique, qui sera celui de l'influence du marxisme sur l'œuvre d'Aragon.
En parlant de cette filiation, il y a quand même une trace qui est susceptible tout de même pendant la Résistance, c'est que Louis Aragon se fait appeler Lucien Andrieux. Donc ouais. on revient oui. aux initiales oui. et au nom du père.
Sa seule fois d'ailleurs où il reprendra. Et Elsa, c'est Elisabeth Andrieux.
Andrieux.
Sauf une pause musicale, on va la faire avec Gérard André qui a mis en musique et qui interprète « Comme les ponts passent la Seine ah, », c'est un texte ça. Extrait des adieux.
Oui, c'est une très belle orchestration.
Sais-je pourquoi je l'ai suivi, ce chemin nulle part qui mène, comme les ponts passent la Seine, j'enjambe le temps de ma vie. Je ne suis qu'une ombre sans rime, un écho jamais éveillé, et comme un gant dépareillé, la preuve d'on ne sait quel crime. Sais-je pourquoi je l'ai suivi, ce chemin nulle part qui mène, comme les ponts passent la Seine, j'enjambe le temps de ma vie. Chaque jour un peu plus se fend, ce cœur insensible à l'en croire, et dans la chair de la mémoire s'enfonce un couteau plus avant. Sais-je pourquoi je l'ai suivi, ce chemin nulle part qui mène, comme les ponts passent la Seine, j'enjambe le temps de ma vie. Ce chemin nulle part qui mène, sais-je pourquoi je l'ai suivi, j'enjambe le temps de ma vie. Comme les ponts passent la Seine, sais-je pourquoi je l'ai suivi, ce chemin nulle part qui mène, comme les ponts passent la Seine, j'enjambe le temps de ma vie. Ce chemin nulle part qui mène, sais-je pourquoi je l'ai suivi, j'enjambe le temps de ma vie, comme les ponts passent la Seine.
Voilà, Gérard André donc interprétait Louis Aragon sur sa musique à lui, Gérard André. Comme les ponts passent la Seine. Et je redonne la parole à Maria Berloz et Jean Knopf qui vont continuer à évoquer les biographies de Louis Aragon à travers plus particulièrement le thème de Aragon et la philosophie marxiste.
Voilà, voilà. Alors, on va tout de même pour situer parce que donner quelques repères chronologiques. Le 15 octobre 1924 paraît le manifeste du surréalisme donc d'André Breton. À l'automne 1924, donc j'ai pas trouvé de date plus précise, paraît dans le second numéro de la revue Commerce, une revue donc qui paraît à l'époque, un texte que l'on peut également considérer comme fondateur du surréalisme qui s'intitule « Une vague de rêves ». C'est d'ailleurs de la fin de ce texte que la Société des Amis de Louis Aragon et Elsa Triolet a emprunté le titre de sa revue « Faites entrer l'infini ». Le 1er décembre 1924, numéro 1 de la Révolution surréaliste, revue donc éditée par le groupe. On y lit entre autres choses, « Le procès de la connaissance n'étant plus à faire, l'intelligence n'entrant plus en ligne de compte, le rêve seul laisse à l'homme tous ses droits à la liberté. Grâce au rêve, la mort n'a plus de sens obscur et le sens de la vie devient indifférent. La révolution, le réalisme s'est émondé les arbres, le surréalisme s'est émondé la vie. » Alors c'est un texte qui est signé entre autres par Paul Éluard et Roger Vitrac. C'était la préface au numéro 1 de la Révolution surréaliste. Alors, essentiel pour nous, parce qu'on va s'appuyer essentiellement là-dessus, enfin, c'est Pierre Juquin qui s'appuie sur ce livre, en septembre 1926 paraît « Le paysan de Paris ». Le 6 janvier 1927, donc moins de six mois après, 6 janvier 1927, jour des rois, Aragon adhère au Parti communiste. Avril 1928, donc l'année suivante, paraît le traité du style. Mais le traité du style a été écrit pendant l'été 1927. Donc on est vraiment dans cette mouvance et on parlera également du traité du style qui est un ouvrage que l'on considère aujourd'hui comme secondaire. Que Juquin et Forest, d'ailleurs, également, mettent en avant dans l'itinéraire d'Aragon. Et enfin, pour finir avec cette chronologie, parce que c'est un texte majeur de la période surréaliste, le 25 mai 1928, paraît « Nadja » d'André Breton. Voilà. Alors, dans un chapitre très intéressant et vraiment novateur, Pierre Juquin étudie la portée philosophique du paysan de Paris. Alors, tous ceux qui se sont consacrés à l'œuvre, qui ont étudié l'œuvre d'Aragon, qu'ils soient critiques bienveillants ou au contraire malveillants, et Dieu sait si les malveillants ne manquent pas, s'accordent au moins sur un point, le paysan de Paris est un chef-d'œuvre. Peut-être même son chef-d'œuvre. Pierre Juquin lui ajoute une portée philosophique, une sorte de révolution copernicienne qui le fait passer de la pensée métaphysique classique, celle qui va de Platon jusqu'à Kant, donc fin du XVIIIe siècle, à la pensée dialectique. Alors, on va lire.
Pierre Juquin dit ceci. Plus je relis Le paysan de Paris, plus j'y trouve le carnet de bord. Pas toujours facile à suivre. Entre le printemps 1924 et l'été 1926. D'une conscience philosophique et poétique en recherche. Comme on aimerait aujourd'hui que des livres français qui font rêver nous donnent autant à réfléchir. Le narrateur part d'un étonnant dessin qu'il a déjà évoqué dans son projet d'histoire littéraire contemporaine, c'est-à-dire constituer une mythologie moderne, autant dire réenchanter le monde plongé par la bourgeoisie dans les eaux glacées du calcul égoïste, marchandisé, mathématisé, taylorisé. Ce dessin en recouvre un autre. Fonder théoriquement la poésie en tant que mode de connaissance et du même coup légitimer le choix d'être poète plutôt que scientifique.
Voilà. Donc la poésie devient outil de connaissance. Hein. Et les eaux du calcul égoïste, c'est une citation de Marx dans le manifeste du Parti communiste.
Et qui est encore contemporain.
Oui, on va faire... on va essayer de faire simple. Mais là, on a besoin quand même de recourir à un minimum de culture philosophique. Le fondement de la logique classique, de la pensée classique, qui est défini d'ailleurs par Aristote dans sa logique, c'est le principe d'identité, hein, qui se résume de la façon suivante. A est A. A égale A. Et c'est le principe d'identité ou de non-contradiction. Autrement dit, ce que cherche la pensée classique, c'est à répondre à la question « qu'est-ce que ?». On cherche l'essence de l'homme, l'essence de la vie, l'essence de la nature, de la liberté, du beau, etc., etc. Et cette métaphysique classique, qui va donc de Platon à Kant, elle est très présente tout au long du XVIIIe siècle. C'est même peut-être un obstacle à la philosophie des Lumières qui a du mal à dépasser cette pensée classique. Elle est très fortement réactivée par Descartes au XVIIe siècle et par la physique de Newton. Hein, la physique de Newton, c'est Newton pour les gens du XVIIIe, des Lumières, c'est l'équivalent de ce qu'est Einstein pour nous. Et à l'inverse, le grand philosophe qui va révolutionner ça, c'est Hegel, pour qui le mouvement dans la nature, si on veut penser le mouvement dans la nature, comme dans la société, comme dans l'histoire, il ne peut s'expliquer que par la contradiction. Et c'est-à-dire que par la combinaison de A et non-A, ce qui conduit à un dépassement qui amène un troisième terme. Et ça, c'est la pensée dialectique. Et on va lire une illustration. Alors, la thèse de Jukin, c'est que Aragon découvre la dialectique, d'ailleurs dans la préface aux paysans de Paris, je l'ai relu ces jours-ci, et le mot dialectique apparaît trois fois, en trois, quatre pages, quoi.
La lumière ne se comprend que par l'ombre, et la vérité suppose l'erreur. Ce sont ces contraires mêlés qui peuplent notre vie, qui lui donnent la saveur et l'enivrement. Nous n'existons qu'en fonction de ce conflit, dans la zone où se heurtent le blanc et le noir. Et que m'importe le blanc et le noir? Ils sont du domaine de la mort.
Voilà, donc, alors à travers son écriture poétique, hein, il ne s'agit pas de donner des cours de philosophie. Alors, une question que se pose Jukin en tant qu'historien, une question à laquelle il est difficile de répondre, c'est comment est-ce que Aragon et ses proches, hein, parce qu'il faut aussi inclure Breton et les autres membres du mouvement surréaliste, ont eu connaissance de l'œuvre de Hegel. La première traduction de la phénoménologie de l'esprit, elle date de 1941. Elle a d'ailleurs été faite par un universitaire, Jean Hippolyte, qui était prisonnier en Allemagne et qui, pour occuper ses journées, a traduit la phénoménologie de l'esprit sans dictionnaire, ce qui explique que son édition, il y a quelques contresens. Hein, depuis, ça a été retraduit. Alors, est-ce que, Pierre Jukin, qui est quand même germaniste, doute que Aragon ait eu quand même les moyens de lire dans le texte la phénoménologie de l'esprit? Alors, la seule piste qu'on ait, enfin bon, ça peut paraître anecdotique, c'est que dans leur entourage, il y avait Raymond Queneau, et Raymond Queneau, qui est un excellent germaniste, pétri de culture allemande, a pu les introduire auprès de la pensée de Hegel. Alors, je vais vous donner quelques phrases qui sont relevées par Pierre Jukin, qui illustrent quand même cette émergence de la pensée dialectique dans le paysan de Paris. Voilà ce qu'écrit Aragon. Penser le réel, c'est penser les métamorphoses. Le réel, il n'est pas ce qui est immobile, mais ce qui change. Hein, Quand on lit Le Paysan de Paris, justement, ce qui illustre le monde moderne, ben c'est par exemple dans le passage de l'opéra, c'est le contraste entre ces boutiques, les lumières, l'obscurité. En fait, c'est saisissant. Le monde moderne est par définition dialectique, quoi. Autre phrase d'Aragon, la réalité est contradictoire. La contradiction est la source de tout mouvement et de toute manifestation vitale. Pour chercher la contradiction interne partout et toujours, cela deviendra chez Aragon une tournure d'esprit, écrit Jukin. Et ça, vraiment, c'est du Hegel pur sucre. Hein. Encore une autre phrase. Que sait Aragon à cette date des idées de Marx et Engels? À peu près rien. Parce que très curieusement, là encore, je me fie à ce qu'écrit Jukin. Donc Hegel n'est pas traduit parce que la pensée française fait absolument obstacle à la pensée dialectique, parce que dans la suite de Hegel, il y a Marx et Engels qui ont pensé le matérialisme dialectique. Donc il y a vraiment un barrage universitaire jusqu'à l'après-guerre, la Deuxième Guerre mondiale. On n'étudie pas Hegel et on ne connaît pas Hegel. Et ce qui est perpétué dans la philosophie, c'est le kantisme, quoi. Le kantisme, d'ailleurs, qu'on a assimilé à la morale laïque, hein, bon, qui domine Jules Ferry, etc. Ce qui est traduit, par contre, c'est très curieusement, les premiers textes qu'Aragon a pu lire, ce sont les œuvres de Lénine que le Parti communiste issu du Congrès de Tours a traduit dès 1923-24. Bon, puis c'est des textes militants, bon, etc. Mais les premières traductions sérieuses de Marx, c'est 1930. Et il y a une édition dite, maintenant qui est un objet de collection, hein, l'édition, ce qu'on appelle l'édition Coste, elle paraît entre 1933 et 1939, et c'est une édition dite des œuvres complètes. Mais plus personne ne lit, parce que bon, elle est bourrée de contresens, etc. Voilà. Puis enfin, une dernière chose qu'affirme Pierre Jukin. Aragon, dans Le Paysan de Paris, refait seul le parcours marxien qui va de Descartes et Kant jusqu'au dépassement de l'idéalisme. Dans Le Songe du Paysan, qui est la dernière partie du Paysan de Paris, le poète arrive presque au point auquel le jeune Marx à l'université de Berlin est parvenu en 1843. Donc il y a ce... Alors, ce qui est important, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que, bon, ben, on parle d'Aragon communiste. Mais alors, bon, il adhère au Parti communiste, et puis, il y a des gens qui trouvent ça très bien, d'autres qui trouvent que c'est une honte, etc., parce qu'il trahit les surréalistes, il se renie. Mais on n'a jamais étudié, d'ailleurs, Jukin le dit, on n'a jamais étudié le rapport d'Aragon à Marx. Qu'est-ce qu'il a lu de Marx? Alors, il y a toute une... il a passé sa vie dans la bibliothèque du Moulin. Il inspecte, par exemple, le Capital. Alors, il écrit que, par exemple, le volume 1 du Capital, il est coupé, parce qu'à l'époque, donc, on coupait les livres. Jusqu'à la page 100, après il est plus coupé, donc il a dû s'arrêter dans le volume 2, etc. Donc il fait vraiment une inspection très très minutieuse. Voilà, ça c'était sur Le Paysan de Paris. Alors le deuxième stade, parce que c'est une pensée en construction, donc faut essayer de la suivre, et là-dessus le livre de Jukin est vraiment très très intéressant, et il nous parle du Traité du style, qui est un ouvrage de référence. Alors le Traité du style, donc c'est un essai. C'est pour cela qu'on ne le trouve ni dans les 5 volumes de romans de la Pléiade, ni dans les 2 volumes de l'œuvre poétique. Quand on veut lire le Traité du style, Gallimard l'a réédité dans la petite collection que j'avais par là, la petite collection L'Imaginaire. Bon, mais évidemment, c'est sans notes, etc. Et ce livre, mais il va sans doute paraître dans le Pléiade qui est en préparation sous la direction d'Olivier Barbaran dans les essais. C'est un livre qui est assez déconcertant. Parce que, donc il est écrit pendant l'été 27, c'est un été que qu'Aragon et Breton passent en Normandie en compagnie de Nancy Cunard, Aragon écrivant le traité du style et Breton écrivant Nadja. Alors, c'est un texte très provocateur qui est souvent considéré et réduit à ça. Ben, c'est un texte, il suffit de lire la première phrase. Faire en français signifie chier. Et la dernière phrase du livre, j'ai bien l'honneur, chez moi, dans ce livre, à cette place, de dire que très consciemment, je conchis l'armée française dans sa totalité. Donc il dit, c'est un livre sur la merde, le début et la fin. Mais en fait, ce que Jukin va dégager, et donc le jugement qu'il fait sur le traité du style, il est tout autre.
Jukin pense ceci, ce traité paraît prolixe, mais il est dense, chaotique, mais il est architecturé, extravagant, mais le raisonnement y est impressionnant d'autorité, fertile en surprise, mais il a une unité, exacerbé, mais une force émotionnelle et intellectuelle le porte. C'est un coup de pied dans la fourmilière, voilà. Ce traité.
Et en même temps, c'est une critique que Aragon fait de sa propre culture. Et il y a un extrait dans lequel il s'en prend, donc on est en 1927, l'été 1927, il s'en prend au maître à penser de l'époque. Et il en cite trois. Il cite Bergson. Alors là, il rejoindra Politzer, hein, puisque Politzer a écrit un pamphlet très violent contre Bergson. Il cite Bergson, le philosophe, donc, qu'il qualifie d'inférieur à un obscur plumitif. Le deuxième qu'il cite, c'est Claude Bernard, le théoricien de la méthode expérimentale qu'on enseigne toujours en terminale. Hein, moi, je me souviens d'avoir enseigné ça. Et qu'il qualifie de positiviste, chez qui se confondent les mathématiques et l'opérette. Et enfin, alors ça, c'était le grand ami de son père et la grande référence, c'est Léon Brunswick qui était l'historien de la philosophie officielle pour qui Kant était le sommet. Et chez Léon Brunswick, il n'y a pas un mot sur Hegel, par exemple. La philosophie s'arrête à Kant. Et que revendique Aragon? Les trois noms que Aragon met qu'Aragon met en avant dans l'histoire des sciences, c'est quand même assez saisissant. C'est Darwin, Freud et Einstein, qui l'opposent donc aux trois précédents. Et il y a vraiment une critique très très forte de ce que Aragon appelle la crétinisation de la pensée bourgeoise. Et ça, c'est. Et il dit que c'est une pensée, et ça, je trouve qu'on le retrouve bien aujourd'hui. Il donne cet exemple. Il dit que c'est une pensée qui pense par slogan et qui est aussi vide que quand on réduit, par exemple, l'histoire du bolchevique à le couteau entre les dents. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, cela dit, on s'imprime ça dans l'esprit. Et puis, mais bon, qu'est-ce qu'on analyse, qu'est-ce qu'on sait du bolchevisme? Ben, à peu près rien, quoi. Voilà.
Alors, on pouvait dire un mot à propos de ce traité. On pourrait en dire plus long, bien sûr. Alors, le traité marque un moment dans la révolte aragonienne. Et c'est un effort de rupture. Quelle lutte avec sa culture, avec sa classe sociale, avec son mode de vie et finalement avec lui-même. Ce cri est encore visiblement d'inspiration anarchisante. Jacques Vacher est plusieurs fois cité. Marx, non. Il est davantage question de révolte que de révolution. Mais les frontières étaient-elles encore bien marquées, même dans le Parti communiste français à cette époque-là? Le traité du style ne laisse pas de faire allusion aux luttes communistes de 1927. Par exemple, contre la guerre, contre l'assassinat de Sacco et Vanzetti, et puis pour les révolutionnaires chinois, qu'André Malraux rapportera en 1933 dans son roman La condition humaine. Tous les communistes ne critent pas à cette époque-là, comme les anarchistes, mort aux vaches.
Voilà. Et alors, en fait, la pensée d'Aragon va suivre l'évolution de son parti, puisque, comme dans ce que vient de dire Maria, il y a un certain anarchisme dans la pensée du parti communiste ces années-là, et c'est l'influence de Maurice Thorez qui va être déterminante. On en parlera à propos du deuxième volume, hein, puisque Maurice Thorez n'est pas encore à la tête du Parti communiste. Mais dès 1930, Maurice Thorez essaie de créer un cercle d'études marxistes. Et ce cercle d'études marxistes, qui sera mis en place en 1932, comprend dans son comité de parrainage Romain Rolland, qui est un écrivain majeur à l'époque, Marcel Prenant, qui est un biologiste, et le grand psychologue de l'époque, qui est un peu oublié aujourd'hui, Henri Vallon. Et on va avoir comme professeur, notamment, les fameux cours de philosophie de Georges Politzer, hein, qui sont toujours édités, et qui, enfin, à mes yeux, restent intéressants à lire. Alors bon, comme je le disais tout à l'heure, il est difficile d'établir l'ordre des lectures d'Aragon concernant Marx, mais il y a quand même pour lui un vrai travail qui se fait à cette époque-là et qui va imprégner son œuvre.
Oui, d'une façon générale, la pensée de Marx n'est pas pour lui un additif, mais oui, c'est un redressement de perspective, une relecture en profondeur du réel. Les secrets de la société et l'histoire percée à ce jour.
Voilà, et la philosophie de Marx, alors ça, moi, j'adhère à 100% là-dessus, parce que, personnellement, quand on fait de la philosophie, les doctrines se succèdent, se contredisent plus ou moins. On a l'impression d'avoir le choix, comme dans un supermarché. Alors que, quand on lit Marx, on a vraiment une clé pour comprendre le réel. Et ça, pour moi, ça reste quelque chose d'indépassable aujourd'hui, quoi.
Donc, en plus de Pierre Juquin, il faut absolument, pas en plus, peut-être avant même, il faudrait lire Marx.
Ah oui, il faut lire Marx, c'est certain. Mais quand on lit, surtout aujourd'hui, d'ailleurs, Marx revient à la mode, d'ailleurs, chez les économistes qui disaient, le stalinisme, etc. Mais la lecture de Marx est essentielle, quoi. Enfin, je trouve que... et elle est beaucoup plus ouverte qu'on ne le dit, parce que le problème, c'est que Marx a été lu et relu par... Alors, c'est sûr qu'il y a, par exemple, un manuel « Les principes de la philosophie marxiste » de Staline, quoi, mais là, c'est du Staline, hein, appliqué à une époque donnée, etc. Puis c'est tout ce qu'il y a avec Staline, voire même Lénine. Hein, il y a une vision de Lénine, dans une situation particulière, qui est celle de la révolution de 17, etc. On est en guerre, mais la lecture de Marx, pour moi, elle est non pas un dogmatisme, mais elle est une ouverture essentielle de la lecture du monde. Et ça, je pense que on le retrouve chez Aragon. Par exemple, tout ce qu'on a dit sur la question du réalisme en art, c'est fondé justement sur une lecture et une réflexion profonde de l'œuvre de Marx.
Ça va être notre conclusion pour aujourd'hui. Le thème de la prochaine émission, on n'a pas encore fixé la date, on préviendra les auditeurs par voie d'internet, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il est déjà
prévu ? Ah oui, ce sera le deuxième volume, le deuxième volume du Juquin, et je pense qu'on parlera de l'action d'Aragon dans le domaine de la politique culturelle du Parti communiste, ce qui dégage bien. On le voit notamment à travers la fameuse affaire du portrait, hein, puis ses interventions dans différents congrès du parti, sa bataille aussi contre un certain ouvriérisme, et puis ce dernier chapitre, moi, que je trouve fabuleux dans la biographie de Juquin, termine sur le fou d'Elsa comme œuvre tournée vers l'avenir, et ça, je trouve que c'est magistral.
Voilà. Oui. Eh bien, voilà, à découvrir. Merci à Maria, merci à Jean, Maria Berlioz, Jean Knauf,
merci
de l'association.
À toi.
Merci à vous.
Les amis de Louis Aragon, Elsa Triolet. Et puis, bonne journée à l'écoute de Radio.
Thank you.